Bonjour à tous. Je vais vite introduire cette table ronde. Vous savez, aujourd'hui, il va y avoir un enjeu de la journée aussi, qui va être de bien tenir les timings, les délais, etc. Donc, je vais commencer sans plus attendre. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir modérer cette première table ronde de la journée. La formalisation ou comment engager la bibliothèque officiellement. Si on part du principe que la formalisation est une préoccupation nécessaire pour toutes les bibliothèques, hein, quelle que soit leur taille ou leur nature, quand elles veulent s'inscrire dans la durée sur des projets inclusifs, on peut aussi s'interroger sur la manière dont vit et se vit sur le terrain tous ces processus de formalisation et d'engagement parfois complexes. Donc je crois que les témoignages de nos trois invités vont pouvoir vous permettre de mieux saisir les enjeux et puis l'impact d'une formalisation bien menée. Donc effectivement, au début de cette table ronde, Olivier Caudron va pouvoir introduire, je dirais, cette table ronde, comme les deux autres qui vont suivre, à la lumière effectivement du rapport qui a déjà été évoqué en introduction. Ensuite, on va faire un petit voyage en France, je dirais, avec mes trois invités. Les trois invités, donc il y a Albal Lejeune qui coordonne la lecture publique et qui est aussi chargé de développement des politiques culturelles pour l'agglomération de Saint-Brieuc-Armor et qui va pouvoir nous présenter en fait la mise en œuvre du schéma d'accessibilité au sein du réseau des médiathèques de la baie. C'est ensuite Corinne Saunier, pour la BDP des Landes, dont elle est la directrice, qui évoquera le processus de structuration et de formalisation en œuvre à la BDP. Et enfin, on fera un tour par l'Auvergne, cher à mon cœur. C'est Fabrice Boyer qui pourra présenter dans le contexte, cette fois-ci, des BU, puisqu'on a bibliothèque territoriale, bibliothèque départementale et bibliothèque universitaire. Pour les BU de l'Université Clermont-Auvergne, dont il est directeur, il va pouvoir évoquer l'articulation en particulier, mais ça sera, il y aura aussi d'autres choses, entre politique de l'établissement et politique de service. Et puis ensuite, on prendra un petit temps pour les échanges, pour les questions que vous pourriez avoir ou les remarques. Voilà. Donc je passe d'abord la parole à M. Caudron. Merci.
Bien, bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Et merci donc pour tout ce qui a déjà été dit sur le rapport donc, que j'ai rédigé avec deux collègues de l'IGSR, donc Fabrice Wicard qui est a priori dans la salle. Bonjour Fabrice. Et Juliana Riemann qui a priori ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et vraiment nous nous réjouissons d'avoir fait œuvre utile. Alors je précise que le rapport en question est en ligne. Et que par ailleurs, nous avons mis en ligne non seulement une version PDF, mais également récemment une version Word et une version EPUB, qui serait sans doute à améliorer, puisque je n'avais pas retravaillé le fichier Word. J'apprends en même temps les questions techniques. Donc, je n'avais pas retravaillé le fichier Word. Donc, le fichier EPUB, qui est une conversion automatique, présente encore quelques imperfections, notamment par rapport au tableau et aux encadrés du document original. Mais bon, c'est déjà une amélioration et j'espère qu'on pourra continuer à améliorer ces documents. Donc, effectivement, la prise en compte des handicaps dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur et dans les bibliothèques territoriales, il y avait évidemment du sens à envisager globalement donc, l'ensemble du paysage, puisque ce domaine, cette thématique est évidemment commune, même si après il y a des adaptations en fonction des publics. Comme soulignait Hélène Brochard, la question des collègues en situation eux-mêmes de handicap est également importante. On n'a pas envisagé dans ce rapport, mais ça pourrait faire l'objet d'une étude ultérieure, parce que c'est effectivement un volet très important. Donc les trois sujets qui vont nous occuper aujourd'hui occupent évidemment une place importante, sinon centrale, dans l'étude que nous avons menée. On peut dire que ce sont trois leviers ou trois piliers, la formalisation, l'identification, la montée en compétences. Dans notre étude, nous avons envisagé plus globalement également la formation initiale. J'en toucherai aussi un mot dans la journée. Donc en tout cas, une organisation appuyée sur des compétences. Et ces trois piliers, ces trois leviers valent également d'ailleurs pour d'autres sujets transversaux. Ça peut tout à fait s'adapter sur d'autres domaines. Ce sont en tout cas les conditions d'une pérennité de la prise en compte et de l'action. Et comme il est dit d'ailleurs dans le plan d'action handicap de la BPI, qui a été mentionné tout à l'heure par Christine Carrier, il s'agit de garantir que l'accessibilité sera prise en compte dès le départ, dès le commencement d'une action ou d'un projet. Et également, comme il a été dit, et ce n'est pas une clause de style, il faut vraiment sortir définitivement d'une approche caritative ou compassionnelle, les bonnes œuvres, l'humanitaire, la sensibilité personnelle, la bonne volonté. pour partir vers une posture professionnelle et institutionnelle qui est vraiment ancrée dans le métier. Dans les réponses au questionnaire que nous avons diffusées dans le cadre de cette étude, nous avons encore trouvé des allusions, enfin des affirmations comme quoi c'est l'affaire de personnes intéressées, de personnes motivées, voilà, je cite. Voilà, donc quand on lit ça, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire. Si on veut assurer une pérennité, apporter une réponse structurelle et institutionnelle, il faut vraiment changer d'approche. Je peux d'ailleurs également citer une élue avec laquelle nous sommes entretenus dans le cadre de cette étude, quand je lui disais que l'accessibilité allait du domicile de la personne jusqu'à la bibliothèque, et qu'il me disait quand même, il faut pouvoir compter sur l'entraide et l'aide d'autres personnes. Je lui dis quand même, on compte aller vers une autonomie et pas devoir compter en permanence sur d'autres personnes qui ne seront peut-être pas là quand on aura besoin d'elles. Hein, voilà. Donc, quand je disais que ce n'est pas une clause de style, on en a là encore une démonstration. Alors, sur la question spécifiquement de la formalisation, parce que je ne voudrais pas être trop long, on voit d'après les réponses au questionnaire que nous avions diffusé qu'il y a encore une grande marge de progression, hein, ça ne vous étonnera pas, même si certaines bibliothèques, ça a été dit aussi, font déjà beaucoup. La formalisation est nécessaire à la fois en interne et vis-à-vis de l'extérieur de la bibliothèque. Comme aucune situation nulle part n'est parfaite, hein, il y a toujours à améliorer. Donc, à partir d'un diagnostic initial, un état des lieux, il y a toujours des actions à planifier avec une vision pluriannuelle, prioriser des objectifs, poser des indicateurs de suivi qui permettront une évaluation, un bilan. Il sera question de Saint-Brieuc. C'est vrai que j'avais été très impressionné par tout ce qui s'est fait à Saint-Brieuc et qu'Alban Lejeune évoquera. Donc, donner une feuille de route, en même temps donner de la visibilité. Trois niveaux peuvent être envisagés avec des documents qui pourront porter des appellations diverses. Donc, un document interne à la bibliothèque, on pourra appeler par exemple, comme à Saint-Brieuc, le schéma d'accessibilité, et qui pourra s'enchâsser à la fois dans le projet culturel, scientifique, éducatif et social, le PCSES de la bibliothèque, ou le projet de service, ou le projet d'établissement, ou le schéma directeur, selon l'expression qu'on utilisera. Donc ça, c'est le premier niveau, avec toujours le questionnement, est-ce qu'il faut isoler la thématique du handicap, ou est-ce qu'il faut la diluer, si je puis dire, puisque c'est par essence une notion transversale. Bon, moi, je pense qu'il faut effectivement les deux, hein, pour à la fois donner de la visibilité au sujet du handicap, mais en même temps le faire apparaître, que ce soit dans la politique documentaire, la politique d'accueil, toutes les questions d'accessibilité numérique, etc. Souvent, et ça a été aussi évoqué par l'ABF, Hélène Brochard, donc le fait que c'est une thématique qui rentre souvent dans la notion de public empêché. Bon, j'aime pas beaucoup l'appellation, mais bon, elle a un côté commode. Ce document spécifique au handicap au sein de la bibliothèque aura aussi tout avantage à être enchâssé dans le projet donc, culturel global de la bibliothèque, hein, ainsi que dans le document sur le handicap, s'il existe, de l'établissement d'enseignement supérieur ou de la collectivité territoriale. Alors, c'est plus facile dans l'enseignement supérieur où il y a maintenant une organisation relativement uniforme et qui est prévue d'ailleurs par la loi de 2013, dite loi Fioraso, avec un chargé de mission handicap, un référent handicap, parfois un service handicap, un schéma directeur du handicap au sein de l'université. Et par exemple, nous avions échangé avec les collègues de l'université de Saint-Denis Paris 8, où effectivement, le schéma directeur du handicap de l'université reprend un certain nombre d'éléments de façon synthétique du schéma d'accessibilité du SCD. Dans les collectivités territoriales, il n'y a pas la même organisation systématique, donc ce sera parfois plus difficile de faire reprendre dans un document de la collectivité territoriale ce qui peut concerner la bibliothèque. Lorsque ces documents existent au niveau de la collectivité territoriale, parfois ils n'évoquent la bibliothèque que sous l'angle de l'accessibilité physique, hein, avec notamment les agendas d'accessibilité programmés, ce qui est évidemment insuffisant. Et pour conclure, dire donc que cette formalisation vis-à-vis de l'extérieur de la bibliothèque permet de la part de l'établissement d'enseignement supérieur ou de la collectivité territoriale une reconnaissance, une prise en compte, et il faut l'espérer, un soutien et des moyens. On voit bien que dans les collectivités territoriales, les élus, les services concernés n'identifient pas toujours les bibliothèques comme des acteurs et comme des lieux de compétences et de ressources dans le champ du handicap. Des améliorations sont de toute façon globalement possibles au sein des collectivités. Une élue avec qui nous étions entretenus avait découvert en préparant l'entretien qu'il y avait un référent handicap dans sa collectivité, ce qu'elle ignorait. Et deuxième effet qui se coule, si je puis dire, elle avait découvert ce référent handicap, ignorait complètement le côté culture et ignorait que, par exemple, à la bibliothèque de cette collectivité, il y avait un fonds pour les enfants, dédié aux enfants dyslexiques, etc. Voilà. Donc, on voit que globalement, au sein des collectivités, il faut aussi faire tomber les silos et puis développer les partenariats. Voilà, je ne serai pas plus loin sur cette introduction et je laisse la place évidemment à la table ronde. Merci.
Merci beaucoup. Donc nous voilà partis à Saint-Brieuc et en Bretagne avec Alban Lejeune. Merci.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici. Je n'ai pas pu apporter le chant des goélands, mais sachez qu'il m'accompagne pour vous présenter un petit peu le réseau. Alors la proposition, c'était vraiment de pouvoir témoigner de la démarche qu'on a engagée collectivement au niveau des médiathèques de la baie depuis maintenant plusieurs années sur cette question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et finalement l'accessibilité à tous. Je vais d'abord vous présenter très rapidement le réseau pour savoir d'où je parle, pourquoi on s'est engagé dans cette démarche-là, comment on l'a formalisée, et puis je céderai la parole par vidéo interposée à une collègue du sud de l'agglomération, Nathalie Lemay, qui témoignera un petit peu des bénéfices que la commune a pu en tirer pour sa bibliothèque, et enfin un bilan très, très rapide. Alors les médiathèques de la baie, c'est aujourd'hui un réseau de 30 bibliothèques. Voilà, donc l'agglomération, elle compte 32 communes, 30 bibliothèques, sachant qu'il n'y a pas forcément une bibliothèque par commune. On a dans le nord et dans le sud de l'agglomération un tissu plutôt rural. Ce qui fait que les bibliothèques sont des petites structures, d'où ce qui est évoqué tout à l'heure de la question des référents handicap. C'est vrai que dans les toutes petites bibliothèques, c'est forcément un petit peu plus difficile à mettre en place. Mais voilà, juste pour vous présenter ça, donc c'est la plus grande intercommunalité du département. Les bibliothèques, donc 30 aujourd'hui, vous voyez, avec une répartition quand même assez forte, et notamment au niveau de la conurbation briochine. Hein, Saint-Brieuc, c'est 45 000 habitants, l'agglomération 151 000. Et après, la plus petite commune, c'est dans le sud, c'est autour de 200, à peine 200 habitants. Voilà, donc c'est pour vous dire que les échelles sont très différentes. Donc on compte à peu près 100 professionnels et une centaine de bénévoles qui sont engagés. Et à l'agglomération, donc nous sommes en situation de coordination, donc en compétences partagées. On coordonne des bibliothèques qui sont municipales ou associatives sur différents axes, en sachant que le premier axe qui a permis la mise en réseau en 2014, c'est celui de l'informatique et du numérique. Voilà. Alors vous me direz, mais quel rapport avec l'accessibilité finalement? Et j'espère que ça va s'éclairer un tout petit peu après. Et le réseau s'est agrandi puisque l'agglomération a été là aussi très largement agrandi en 2017. Donc ce qui fait qu'on était au départ à 17 bibliothèques et on est maintenant à 30. Et ce n'est pas forcément terminé. Alors pourquoi un schéma d'accessibilité? Il faut savoir que pour cette mise en réseau, sur les prétextes d'un système d'information commun, à la fois de gestion interne et d'outils de service au public, le postulat a été au tout départ et accompagné par un consultant, celui de l'accessibilité. D'où le fait que notre portail, dès sa mise en place en 2015, a été travaillé avec un expert AccessiWeb, de sorte à lui garantir les meilleures conditions pour une accessibilité à tous, avec une navigation au clavier, des contenus d'écrit, etc. Alors pourquoi on s'est engagé dans cette démarche-là, donc avec les 23 communes et l'agglomération et les deux associations maintenant, bien sûr pour améliorer la prise en compte et l'accueil des personnes en situation de handicap, sachant que les projets étaient déjà très différents, parfois prenant déjà en compte cette donnée-là et parfois assez peu. Mais globalement assez peu, les deux plus grandes communes, Plérin et Saint-Brieuc, étaient déjà engagées dans des logiques d'accessibilité assez influente, mais ça n'était pas le cas partout. Donc on a travaillé vraiment à la prise en compte de tous les types de handicap, des 10 au handicap moteur en passant par le handicap visuel, etc. Et on a essayé de travailler en ayant un spectre assez large, à la fois étudier la question de la gouvernance, comment la question de l'accessibilité était gérée collectivement ou au niveau de chaque commune, la question de la sensibilisation ou de la formation des équipes, les deux logiques étant proches, le cadre bâti, extérieur et intérieur, les collections, les services qui sont proposés dans les bibliothèques et qui sont proposés en ligne, les outils de communication print et web, les actions de médiation et les partenariats. Alors pourquoi on s'est engagé ici? Donc je vous disais que notre portail était nativement accessible à sa création. Et l'idée, en fait, lorsque le réseau s'est élargi en 2018, c'est qu'en fait l'État incitait vivement au niveau de la DRAC Bretagne à s'engager dans un schéma d'accessibilité. Et l'aide à l'investissement était majorée dans ces conditions de 10%. Ce qui fait que pour l'élargissement du réseau, on a bénéficié de 60% d'aide de la part de l'État. Donc autant vous dire que c'est un petit déclic qui fait son effet lorsqu'on mène des projets d'investissement, à la fois pour des projets transversaux comme l'élargissement du système d'information des bibliothèques, mais ça vaut aussi pour des projets de construction. Et la dynamique dans notre réseau fait qu'en une petite dizaine d'années, plus de la moitié des bibliothèques ont été soit construites, soit agrandies, soit rénovées. Et c'est vrai que, ne serait-ce que récemment, les projets ne manquent pas. Voilà, donc il y a vraiment, au départ, ce besoin de conformité avec la loi de 2005, certes, mais l'incitation de l'État qui a été très très forte, et bien sûr, celle des publics et pour les techniciens aussi largement essentielle. Alors, on a commencé par un état des lieux en 2018, je vais vous présenter après. Bien sûr, le jeu, c'était qu'il n'y avait pas de moyens supplémentaires ni pour mener la phase d'avant-projet, ni pour réaliser les actions. Et le périmètre est bien celui de tout le réseau. Et on travaille depuis lors avec un groupe de référents accessibilité. Donc il y a à peu près 8 collectivités qui sont représentées. Donc c'est peu par rapport à 23 communes. Mais malgré tout, ce sont les structures qui sont les plus impliquées, les plus motrices en fait dans cette démarche-là au niveau du réseau. Alors comment avons-nous formalisé ce projet ? Donc au tout départ, en 2018, on a travaillé vraiment une phase d'état des lieux, en sachant que, je vous disais que le portail, on avait déjà une formation sur l'accessibilité numérique et un accompagnement pour le portail. On a aussi suivi avec Françoise Sarnowski en 2017 une formation sur l'accueil des publics en situation de handicap. Donc on était déjà un petit peu outillés, sensibilisés. Ensuite, en fait, avec le groupe accessibilité, on a élaboré un questionnaire de plus de 100 questions en ligne que chaque collègue a dû compléter en prenant son maître pour regarder quel était l'espace entre les rayonnages, par exemple, pour un exemple marquant. Mais voilà, les collègues se souviennent de ça. Voilà. Une fois que l'état des lieux a été fait, les communes, et l'agglomération et les communes ont délibéré pour s'engager dans ce schéma auprès de l'État. Et après, on a élaboré un plan d'action quinquennal qui est toujours en cours, avec à chaque fois des phases de transmission vers les communes et de transmission vers la DRAC. Alors très rapidement, pour vous faire part des livrables sur lesquels on a travaillé, outre la partie juridique et administrative avec les délibérations et concordantes entre les communes et l'agglomération, cet état des lieux qui est assez conséquent en fait de 2018, où en fait le questionnaire fait complété par chaque bibliothèque a permis de voir les points forts et les perspectives d'amélioration, donc ce qui pouvait déjà donner au titre de chaque bibliothèque un plan d'action municipal, en sachant qu'on a aussi des actions qu'on mène de façon coordonnée et sur tout le réseau, sur la base du volontariat des communes, de leurs priorités et de leurs moyens. Donc ça, c'est un point important à connaître. Et ensuite, chaque année, donc on fait un plan d'action et municipal et transversal qui est transmis pour validation aux communes avant transmission à la DRAC Bretagne pour suivi. Et une fois qu'on aura fini en 2023, l'idée c'est qu'en 2024, on refasse ce questionnaire pour voir quelles ont été véritablement les améliorations dans chaque bibliothèque, avec bien sûr des niveaux qui seront différents. Très succinctement aussi, ce plan d'action, on a essayé de lui donner à chaque fois pour chaque année un axe fort. Donc là, cette année, on est vraiment sur le développement des actions de médiation. Et à partir de l'année prochaine, vraiment, encore une fois, sur la question des partenariats, sachant que les 5 enjeux se cumulent et ne se remplacent pas. Mais voilà, on a déjà essayé d'avoir une infrastructure qui soit forte et qui soit optimisée. Ensuite, on a développé les services et maintenant, on est vraiment sur le lien très, très fort avec les publics. Quelques exemples, des actions municipales, donc voilà, qui sont variables en fonction de l'état des lieux de chaque bibliothèque et de ce que chaque commune souhaite y mettre. Donc à la fois tout ce qui relève du cadre bâti, intérieur-extérieur, donc ça c'est vraiment de la compétence municipale. Le développement de collections de type facile à lire, 10, en sachant qu'on a Livre et Lecture en Bretagne qui est aussi un élément très très moteur des démarches accessibles en Bretagne. On accueille aussi les collègues accueillent des stagiaires, s'inscrivent parfois dans le dispositif du OD dont le rapport fait état, et développent des partenariats locaux. Et en transversalité, alors l'agglomération contribue financièrement à un projet thématique chaque année avec l'appui du CNL, en fait, à la fois développer un volet collection, un volet médiation et un volet formation sur chaque type de handicap chaque année. Cette année, c'était sur le handicap auditif, l'année précédente sur le handicap visuel. Mais sinon, voilà, pour l'agglomération, son rôle est surtout de coordonner. On tâche de faire le lien avec la commission intercommunale d'accessibilité aussi, qui a un guide intéressant et avec laquelle on prévoit, notre portail sera sans doute étudié prochainement dans le cadre du focus group, en fait, pour faire avancer aussi la question de l'accessibilité du site internet de l'agglomération. Voilà. Donc on sera étudié comme un cas d'école avec des perfections, bien sûr, à prévoir de notre côté. On a travaillé aussi à coordonner le registre public d'accessibilité, le mois de l'accessibilité aussi, qui était dans sa première édition au mois d'octobre. Et on travaille en réseau, on s'est engagé dans Daisy et compagnie avec l'association Valentin Ahuy, donc ça vaut pour tout le réseau. On travaille avec Livre et Lecture en Bretagne. Voilà. Alors pour céder la place et la parole à Nathalie Lemay, je lance la vidéo.
Bonjour à tous, je suis Nathalie Lemay, la responsable de la médiathèque de Ploufragan. Je suis ravie de partager ce moment avec vous et je vais vous faire part de l'exemple de la médiathèque qui a fait l'objet d'une rénovation de son accueil en novembre 2019 suite à la mise en place du schéma d'accessibilité sur le réseau des médiathèques de la baie. Je vais partager avec vous un petit document, ce sera plus parlant. Voilà, nous y sommes. Donc, la ville de Ploufragan est une commune de 12 000 habitants située en périphérie de la ville de Saint-Brieuc et offre à ses habitants un espace culturel qui s'appelle l'espace Victor Hugo, qui contient une école de musique, une salle d'art plastique, une salle de danse, une galerie d'exposition, un auditorium tout récent qui fait l'objet d'une saison culturelle et la médiathèque qui est située au rez-de-chaussée de la partie circulaire du bâtiment, hein, sur la photo que vous voyez là, et qui est sur un plateau de 850 mètres carrés. Quand nous avons travaillé en 2018 sur le schéma d'accessibilité, nous avons fait comme nos collègues, hein, sur le réseau, on s'est arrêté pour prendre des mesures, pour observer, pour regarder nos aménagements extérieurs, nos aménagements intérieurs, la circulation entre nos rayonnages, notre signalétique, nos collections, bien sûr. Et très, très vite, il nous est apparu à Ploufragan que nous avions un très, très gros point faible. Et vous allez comprendre tout de suite avec la diapo suivante. C'était nos portes. Des portes noires, des portes pleines qui, d'une part, cachaient complètement la médiathèque aux personnes qui arrivaient dans l'espace Victor Hugo. Donc, il y a plusieurs personnes qui parfois m'ont dit « Mais on est rentré dans l'espace Victor Hugo et on n'a pas vu la médiathèque, on ne voit pas par où est rentrée, on ne sait pas où elle est. » Donc voilà, on était complètement coupés du monde en quelque sorte. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est que ces portes-là étaient très très lourdes, difficiles à manipuler, notamment pour des personnes âgées qui perdent un peu de force, pour des enfants, pour les parents qui avaient des poussettes, et évidemment pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Donc, ça faisait partie des choses qui étaient vraiment à faire. Alors, on n'a pas attendu le schéma hein, pour se rendre compte que c'était un point faible. En revanche, le schéma a été un déclencheur pour travailler et nous dire qu'il fallait absolument qu'on avance sur cette problématique-là. Et nous avions un deuxième point noir à la médiathèque, c'était notre banque d'accueil qui était très très haute et nous ne pouvions pas du tout accueillir une personne à mobilité réduite sur cette bande d'accueil-là parce qu'il n'y avait rien de prévu. Il y avait eu à un moment donné un petit bureau qui avait été ajouté mais qui très vite a été complètement négligé et oublié. Donc voilà, donc nous avions cet accueil à réaménager. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais l'espace Victor Hugo avait été inauguré en 2001. Donc là, on était sur des aménagements qui avaient été pensés à la fin des années 90. Donc, nous avons travaillé sur ce réaménagement de l'accueil, donc dans un cadre beaucoup plus global hein, que l'accessibilité aussi. Il y a un premier dossier qui a été déposé dans le cadre de l'extension des horaires d'ouverture, puisqu'à cette occasion, nous sommes passés de 26 à 28 heures d'ouverture hebdomadaire. Nous avons équipé la médiathèque en RFID avec trois bornes automatiques. Hein, donc, nous sommes maintenant en pré-retour 100% automatisé. Et nous avons donc proposé un deuxième dossier auprès de la DRAC, celui-là a été monté dans le cadre du schéma d'accessibilité et qui comprenait ces fameuses portes ainsi qu'une boîte de retour dont nous ne disposions pas à l'époque. C'est un réaménagement qui a été assez rapide. Hein. Le conseil municipal de la ville a pris une délibération en mars 2019. Bon, le temps de consultation, le temps des travaux. Au 1er décembre, nous avons rouvert la médiathèque qui n'a fermé qu'un mois. Donc, on a privé assez peu longtemps, finalement, nos usagers. Et puis, de toute façon, il y a toutes les bibliothèques du réseau qui étaient là pour assouvir leur soif de lecture et de musique. Voilà, donc, sur ces photos, vous voyez le résultat. Donc, les portes noires ont disparu au profit de portes vitrées entièrement automatisées. Donc, la question d'accessibilité, évidemment, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. Ce vitrage donne quand même une respiration tant au hall qu'à la médiathèque, on peut enfin se voir et s'apercevoir. Voilà, c'est quand même important pour les usagers qui rentrent dans le hall, qui puissent voir la médiathèque. Et sur la photo de droite, un bureau d'accueil qui remplace la grande banque de prêts, hein, qui est située dans un grand espace d'accueil où sont situées maintenant les bornes RFID. Pour conclure sur cet espace, on peut dire quand même qu'il a généré une immense satisfaction parce qu'il y a une circulation qui est bien plus fluide pour les usagers et pour les personnels, donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Et je vais élargir ma conclusion en disant que ce schéma a été un déclencheur pour cette rénovation, mais a aussi été un déclencheur plus largement dans notre pratique de travail et sur toutes nos réflexions que nous menons au quotidien sur les petits et grands projets en termes d'accessibilité. Là, je ne l'ai pas précisé parce que ça n'était pas vraiment non plus l'objet de mon intervention, mais dans le cadre de la rénovation de cet accueil, nous avions prévu un espace facile à lire donc qui est aujourd'hui effectif. Donc voilà, nous avons vraiment cette envie et ce besoin finalement maintenant d'aller systématiquement chercher les problématiques d'accessibilité chaque fois que nous avons un projet à réfléchir, à mettre en place pour nos usagers, ce qui nous permet aussi de nous ouvrir beaucoup et d'aller vers des partenaires et d'ouvrir notre champ de travail. Voilà, je vous remercie de votre écoute.
Voilà, donc vraiment pour témoigner sur le congrès, ça me paraissait important en fait de donner la parole à un collègue du réseau. Et très rapidement, pour terminer, céder la parole à mes collègues et voisins. En gros, hein, vraiment, vous avez compris, c'était vraiment un élément déclencheur à la fois sur une réflexion collective, mais à géométrie variable en fonction des territoires. Le groupe de référent, le groupe accessibilité, et pourtant ça fait plusieurs années qu'il est en place, et bien, on voit bien que la problématique et la mobilisation demeurent, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les sujets, surtout en ce moment où on est un petit peu tous sous l'eau et sujet au traitement de nombreuses problématiques. Donc je souligne vraiment l'effet levier de l'État. C'est extrêmement important. En sachant qu'on avait bien sûr, comme un petit peu partout, des marges d'optimisation à différents niveaux, d'où cette idée d'avoir un spectre large sur l'étude des questions d'accessibilité. Pour l'instant, le reproche qu'on peut se faire à nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas forcément impliqué au tout départ les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça a été dans une logique de l'offre, mais en travaillant sur des personas pour essayer de prendre en compte les publics. Mais c'est un travail qui nous reste vraiment, vraiment à faire. Voilà. Et quelle pérennisation de la démarche après 2023, ça restera un questionnement. J'espère que ce sera maintenu. En tout cas, que la dynamique sera suffisamment lancée pour se pérenniser, ne serait-ce qu'au niveau municipal. Voilà. Merci de votre attention.
Merci Alban pour vraiment cette intervention. Moi, j'ai trouvé très intéressante. Et puis l'éclairage, effectivement, de la bibliothèque du réseau, très concrète aussi. C'est maintenant Corinne, voilà, qui va prendre la parole pour la BDP des Landes.
Alors, pour la BD, Françoise, je me permets, oui. En introduction, donc la Bibliothèque départementale des Landes. Je ne sais pas si le micro... Je continue. Et je vais donc vous présenter la démarche accessibilité des médiathèques landaises. Une bibliothèque départementale, vous le savez, est un service d'un conseil départemental qui soutient et coordonne le fonctionnement des médiathèques de son département. Donc, concrètement, dans les Landes, nous accompagnons 130 médiathèques de toute taille et nous coordonnons l'action de 800 acteurs. Je parle là uniquement des personnes impliquées dans les bibliothèques, non des élus. 800 acteurs, à peu près 200 salariés et 600 bénévoles. Je le précise puisque ce paysage a évidemment a été pris en considération et a eu de l'impact sur le besoin de formalisation que nous avons ressenti dès le départ de la démarche et dont je vais vous reparler. Pourquoi une démarche accessibilité dans un réseau aussi vaste? Eh bien, précisément, le réseau est vaste. Le département, alors on a descendu la côte ouest. Le département des Landes est un département extrêmement vaste, extrêmement rural. Vous en connaissez peut-être une partie un petit peu plus concentrée sur la côte, mais c'est également, dans sa partie est, un département très, très rural, avec de toutes petites communes et des compétences en matière de lecture publique qui sont encore restées très, très communales. Sur 130 bibliothèques, on est aujourd'hui encore partenaire d'à peu près 95 collectivités. Donc vous le voyez, la mise en réseau avance, mais le transfert des compétences aux communautés de communes a encore de beaux jours devant lui. Alors concrètement, pour une bibliothèque départementale, ça veut dire autant d'acteurs à fédérer, à sensibiliser, à accompagner. Et pour cette raison, nous avons immédiatement ressenti le besoin de formaliser la démarche qui allait être engagée. Alors, donc pourquoi une démarche ? Alors, un paysage géographique particulier, je le rappelais, un réseau très très dispersé, mais bien sûr un contexte dont nous avons pris conscience au fil du temps, voilà, avec l'émergence de la loi de 2005. Bien concrètement, comme le rappelait Olivier Caudron tout à l'heure, nous avons fait l'expérience qu'il partageait, à savoir que nous avons constaté que les collectivités, cette loi avait eu un impact important sur le bâti. C'est-à-dire concrètement, il ne se construisait plus de médiathèque qui ne soit accessible physiquement. En revanche, la question des services, qui était pourtant très clairement exprimée dans le code de la construction et de l'urbanisme et dans cette loi pour l'accessibilité et l'égalité des chances, eh bien cette question de l'accessibilité des services était totalement ignorée à la fois par les élus, Olivier Caudron le rappelait, mais également à l'époque par les bibliothécaires landais et landaises. Notre objectif était de pouvoir les sensibiliser à ces enjeux et les accompagner dans leurs actions, puisque vous l'avez compris, nous n'avons donc pas de compétences sur ces bibliothèques, donc pas de possibilité de prescription, mais simplement de la mobilisation et de la sensibilisation. Alors concrètement, donc l'objectif de cette démarche était pour nous de rendre accessible, donc ajouter le volet. Je ne l'ai pas relu, hein, mais je vous rappelle que l'article du Code de la construction et de l'habitat qui maintenant est abrogé. On en reparlera peut-être au cours de la journée, malheureusement abrogé, rappelait très clairement que donc est considéré comme accessible aux personnes handicapées un cadre bâti qui permet de circuler, d'accéder aux locaux, aux équipements, d'utiliser des équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçue. Donc tout était clairement inscrit, mais la prise en considération n'existait pas. Donc concrètement, nous avons souhaité, pour résumer la démarche, donner accès aux œuvres de l'esprit et à leur valorisation. Les collections n'étaient pas accessibles, et les services, je pense particulier à l'accès aux ressources numériques, nous y reviendrons, mais également les actions d'animation proposées par les médiathèques n'étaient pas adaptées pour l'être. Notre démarche, je la rappelle, a été aussi simple que cela, donc travailler à donner accès à ces œuvres de l'esprit, donc tout ce qui constitue nos collections en médiathèque, et dans une démarche qui se veut très très large, donc au-delà des personnes en situation de handicap, mais cette démarche concerne tout ce que nous appelons les publics empêchés. Donc bien sûr les personnes en situation de handicap, les personnes âgées dépendantes, qu'elles soient en EHPAD ou à domicile, les personnes sous main de justice, les personnes hospitalisées, et puis à terme également le public scolaire que nous avons englobé dans cette démarche, au sens où il peut être empêché par son manque d'autonomie, la difficulté à se rendre à la médiathèque la plus proche si vos parents ne vous accompagnent pas. Donc comment on travaille avec l'offre des partenaires éducatifs et les bibliothèques locales pour que là aussi les œuvres soient les plus accessibles possibles. Donc pour chacun de ces publics, de ces publics visés, la démarche disposait d'une méthode. Méthode que je vais illustrer par l'action auprès des médiathèques publiques, qui pour l'instant est la plus avancée. La méthode était tout d'abord de proposer une offre de collection physique adaptée. On a souhaité démarrer par ce pan qui s'appuyait sur le cœur de métier de nos collègues. Donc proposer des collections adaptées, les grands caractères, les livres lus, les ouvrages pour les 10, enfin je détaille pas, tout ça sera révoqué tout au long de la journée. Proposer également des animations qui soient adaptées. Donc nous avons appris à proposer des actions traduite en langue des signes, par exemple, ce qui en territoire rural peut être assez compliqué pour identifier les bons interlocuteurs, voilà, pouvoir les solliciter. Travailler évidemment les conditions d'accueil, tout cela passe par la formation initiale habituellement dispensée par les bibliothèques départementales, qui s'est vraiment spécialisée pour permettre de s'assurer de la bonne distance entre les rayonnages, de la hauteur des rayonnages, etc. Le deuxième pan du projet était de proposer une offre numérique adaptée. Et nous le verrons tout à l'heure, c'est ce pan de l'action qui nous a engagés vers la formalisation tout d'abord, avec un accès. L'objectif de ce pan était de. Le constat qui avait été dressé de se dire nous disposons d'une médiathèque numérique riche et importante, puisqu'elle préexistait à la démarche. Elle est autant d'atouts pour les personnes en situation de handicap ou les personnes éloignées, mais elle n'est pas utilisée en tant que telle. L'objectif ici était surtout de valoriser l'offre numérique existante, de la faire connaître, de l'adapter techniquement, puisqu'il restait du travail à mener en conséquence, pour qu'elle permette de consulter les œuvres de façon adaptée et donc y compris à distance. L'objectif de la démarche est également de faire savoir et d'accompagner, on le rappelait tout à l'heure, les outils existent, et là aussi Olivier Caudron le rappelait en introduction, les bibliothèques disposaient, avant la démarche évidemment, d'ouvrages en gros caractères, de livres lus, mais ne pensaient pas forcément à les mettre en valeur en tant que tels et à les identifier comme des collections accessibles. Donc c'est faire savoir tout d'abord aux bibliothécaires des ressources dont il ou elle dispose et puis accompagner la mise à disposition de l'ensemble de ces ressources. Mais c'est également faire savoir, et donc là, la chance que nous avons eue, c'est d'avoir la chance de pouvoir nous appuyer sur des experts pour mener cette démarche en nous rapprochant dès le départ de la... Des associations qui effectivement sont capitales pour vraiment travailler l'accessibilité avec ces publics. Mais donc c'est également faire savoir quelles sont les ressources identifiées auprès de ces publics, et ça passe beaucoup par les associations ressources, l'association Valentin à huile locale par exemple, toutes les associations qui œuvrent déjà sur le territoire et qui ont été très enthousiasmées par la démarche, au sens où elle leur permettait elles-mêmes d'identifier des ressources vers lesquelles elles allaient pouvoir orienter les personnes en situation de handicap. Donc, faire savoir et accompagner à la fois pour les porteurs de la démarche, mais pour les bénéficiaires, et le chemin doit vraiment se faire de façon concomitante. Et puis, bien sûr, dans cette action, un pan évaluation, mais j'y reviendrai, c'est un pan qui nous reste très fortement à travailler de notre côté. Donc voilà, pour résumer la démarche accessibilité telle qu'elle a été menée. Alors elle a été menée avec un calendrier au départ tel que Alban l'a présenté tout à l'heure, mais aujourd'hui je parle plutôt d'une chronologie, parce qu'évidemment on met des calendriers sur le papier, mais vous le savez, les calendriers sont très durs à tenir. Ils n'ont évidemment pas été tenus en cette période Covid, avec beaucoup d'absents dans les services. Donc c'est une démarche qui a été en grande partie mise au suspens là, pour ces deux dernières années. Mais j'y reviendrai, elle n'est qu'en suspens. Et c'est là aussi sans doute l'avantage de la formalisation. Donc dans ce paysage de bibliothèque très, très diversifié, je l'évoquais tout à l'heure, dès le prémisse, nous avons ressenti le besoin de formaliser la démarche. Tout d'abord, par rapport à tous ces bibliothécaires pour lesquels nous travaillons, qui ont des formations, des expériences très, très diverses, et on a fait le choix de s'appuyer sur des fondamentaux pour rappeler et engager la démarche. Alors, dans les fondamentaux, je rappelais évidemment la loi pour l'égalité des chances tout à l'heure, mais je tenais à rappeler, nous l'avons fait pour l'ensemble des acteurs du réseau, que le manifeste de l'UNESCO, sur lequel nous nous appuyons tous, était déjà extrêmement clair sur cette question mais que chacun ou chacune d'entre nous y a évidemment lu ce qu'il souhaitait y lire à un moment donné. Mais il a donc le manifeste, même s'il est obsolète sur certains points, réexprime très clairement que des services, des documents spécifiques doivent être mis à disposition des utilisateurs qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, faire appel au service des documents courants. Donc c'était déjà extrêmement clair, mais je pense qu'on a été dans une forme de déni, je m'inclus évidemment dans le « on », pendant de très nombreuses années. Et puis l'étape de formalisation qui nous a beaucoup aidés dans le département des Landes est une convention de développement culturel qui était en train de s'écrire en partenariat avec la DRAC, acteur effectivement incontournable et nécessaire pour la pérennisation de la démarche, je le confirme. Le département des Landes avait, parallèlement à cette démarche, fait le choix de rédiger, de se donner des objectifs partagés de développement avec la DRAC qu'il était en train de traduire dans une convention de développement, ce qui nous a permis d'intégrer cette démarche accessibilité dans ce document cadre et de l'intégrer, là aussi, comme à Saint-Brieuc, dans le tout d'abord par la porte d'entrée du numérique. Je pense qu'en matière d'enjeux vis-à-vis des élus, à l'époque, puisqu'on est là à peu près, on doit être avant 2015, les enjeux étaient sans doute davantage au développement du numérique, et la porte d'entrée nous semblait plus porteuse à l'époque. Et puis on était parallèlement sans doute également en train d'élaborer la démarche qui a été... Quand on relit l'histoire, la démarche, elle peut sembler extrêmement précise et chronologique. Il est évident qu'une démarche comme celle-là, elle s'adapte au jour le jour et elle doit aussi se saisir d'opportunités. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc une première étape de formalisation de la démarche qui est passée par une convention de développement culturel entre le département des Landes et la DRAC, convention à laquelle a été ajoutée une convention d'objectifs entre le département et l'ARS. Cette convention d'objectifs a été pour nous un levier également très important pour légitimer la démarche. Elle permettait notamment de montrer à quel point nous travaillons justement pas en silo sur ce type de démarche, mais nous la travaillons avec des acteurs concernés au premier chef. Et puis parallèlement, donc en déclinaison de ces deux documents de formalisation, la DRAC nous a proposé à ce moment-là un premier contrat territoire lecture qui nous a permis d'inscrire de façon plus détaillée l'ensemble des actions que nous voulions mener. Vous imaginez que dans une convention de développement culturel entre l'État et le département, c'est vraiment un document cadre très très large. L'avantage pour nous du CTL est qu'il nous a permis de détailler et de rendre plus lisibles les actions, notamment auprès des bibliothécaires landais, à qui nous avons partagé évidemment ce CTL. Le contrat territoire lecture nous a... Je reviendrai sur la suite de la formalisation, puisqu'elle a eu une deuxième étape, cette formalisation. Ces documents cadres qui ont été rédigés ont jeté les bases d'un projet de direction qui est à présent finalisé, qui a été décliné en projet de service. La direction de la culture dans le département des Landes intègre la médiathèque départementale, les archives, mais également un service du développement local et un service du développement territorial qui accompagne plutôt la partie spectacle vivant et un service du patrimoine. Aujourd'hui, tous les projets de direction sont déclinés en projets de service, évidemment également la médiathèque départementale. Et ce projet de service, donc à chaque fois, le champ de l'accessibilité a été rédigé dans ces documents de cadrage. Et il a ouvert la voie à un deuxième CTL pour les années 2017-2019. Et puis à présent, un CDLI qui couvre la période 2020-2022, donc qui est donc encore en encore en cours. Donc vous le voyez, une première étape qui a permis tout d'abord de consolider le champ du numérique pour nous pérenniser les ressources numériques qui aujourd'hui ne sont plus questionnées, notamment dans leur budget, ce qui est important, parce que les ressources numériques sont un levier de l'accessibilité des œuvres et qui nous a permis de renouveler notre portail pour le rendre accessible. Et puis une deuxième étape de la formalisation qui nous permet aujourd'hui de mener l'ensemble des actions que je rappelais tout à l'heure. Alors, vous le voyez, donc une formalisation sous forme de poupée russe, mais qui a été capitale pour que nous puissions nous adresser et la construire avec chacun de nos partenaires et qui a apporté évidemment une légitimité à la démarche, à la fois en interne, auprès des bibliothécaires de l'équipe, enfin, auprès de l'ensemble de l'équipe, auprès des bibliothécaires du réseau, de l'ensemble des médiathèques, auprès des élus, que parallèlement nous continuions à accompagner pour la création de leur médiathèque, qui donc, à partir de maintenant, n'intègre plus l'accessibilité que dans la question du bâti. Auprès des partenaires, alors on a cité la DRAC, mais on peut également citer le CNL ou les associations qui nous ont apporté de l'expertise. Aujourd'hui, quand nous tournons vers la DRAC ou vers le CNL, c'est dans le cadre d'une démarche qui s'inscrit dans le temps et qui est systématiquement approuvée et réapprouvée par nos élus par le biais de l'ensemble des conventions que je rappelais tout à l'heure. Elle apporte également une lisibilité. Elle est inscrite dans le projet de direction, donc chaque étape de l'évaluation du projet de direction et chaque reconstruction de fiche action remet l'accessibilité au cœur des enjeux. Et puis elle commence à s'inscrire dans le règlement départemental d'aide aux médiathèques. Les médiathèques départementales sont très souvent dotées d'un règlement d'intervention qui leur permet notamment d'apporter des aides financières aux médiathèques. Et bien cette démarche accessibilité commence à s'inscrire dans ce règlement départemental qui pour nous est vraiment le signe de l'inscription dans le quotidien. L'exception handicap pour laquelle nous venons d'être labellisés par exemple est à présent inscrite dans le règlement puisque les collectivités partenaires devront signer la charte dans le cadre de l'exception handicap. C'est donc c'est une lisibilité qui émane de cette démarche de développement au long cours et d'action qui s'inscrivent dans une logique. Ça apporte la pérennisation. Alors, j'ai parlé rapidement des budgets tout à l'heure. Je peux en parler également pour les acquisitions physiques. On a eu, comme partout, des années de tangage sur les budgets d'acquisition. Une formalisation comme celle-là, je vous y encourage vivement, car je pense que c'est... alors, pour combien de temps, je ne le sais pas, mais c'est actuellement une formalisation qui ne remet plus en question nos budgets d'acquisition, ce qui est quand même un atout conséquent. Ce sont des actions culturelles adaptées qui maintenant sont inscrites dans les pratiques des médiathèques. Alors, de façon hétérogène, hein, pas partout, pas tout le temps, mais régulièrement. Nous constatons dans l'année des bibliothèques qui proposent des actions culturelles adaptées. Des partenaires qui se tournent vers la médiathèque départementale et qui aujourd'hui reconnaissent son expertise pour accompagner les projets, et donc particulièrement les projets de médiathèque publique, dans le choix du mobilier, dans la signalétique, dans la connaissance des outils de lecture adaptés, l'expertise sur les acquisitions. Et puis nous voyons, alors signe de la démarche, nous voyons aujourd'hui des EHPAD se tourner vers nous pour aménager des espaces de lecture évidemment adaptés. Et dans ce cas-là, nous accompagnons en partenariat avec la bibliothèque locale quand elle est en capacité de porter ce partenariat. Donc cette formalisation, elle a pour nous été capitale. Nous l'entretenons, nous la surveillons comme le lait sur le feu. Il ne faut pas qu'on la perde, c'est un levier important, vous le comprenez. Mais évidemment, elle n'empêche pas les avancées par à-coup. Bon, je vais parler de la période Covid. La démarche, évidemment, a été mise en suspens dans ces années pendant lesquelles il a surtout fallu assurait le quotidien et les fondamentaux des services. Mais, encore une fois, nous avons constaté que certaines actions de la démarche étaient inscrites dans ce que nous appelons les fondamentaux. Les acquisitions ont été maintenues. Donc là aussi, la question des collections, par exemple, ne sera plus remise en question. Il est maintenant... le plan de développement, il est posé et les acquisitions sont... sont régulières. Donc, elle donne c'est une formalisation qui donne un horizon et qui reste pour nous à poursuivre par tout le pan d'évaluation très fin de la démarche. Alors, je ne vous cache pas que nous ne savons pas pour l'instant à quel moment nous allons pouvoir engager une évaluation extrêmement fine, parce qu'elle serait vraiment intéressante, évidemment pour nous, mais je pense également à partager pour mesurer l'ensemble, voilà, l'impact de ces actions. Donc c'est un pan qui reste dans les à-coups, c'est un pan qui reste pour nous à mener. Merci beaucoup.
Merci. Et donc c'est Fabrice Boyer maintenant qui va prendre la parole pour les bibliothèques universitaires de l'UCA, l'Université Clermont-Auvergne.
D'accord. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis le directeur des bibliothèques universitaires de l'Université Clermont-Auvergne. Alors je vais essayer. Voilà. Donc je vais passer un petit peu de temps sur la première diapositive pour dire quelques mots sur cette université. Donc l'université Clermont-Auvergne, c'est une université qui est présente sur quatre départements, donc les départements qu'on appelle Auvergnat, qui comprend à peu près 37 à 38 000 étudiants pour à peu près 4 000 personnels. Cette université, elle est issue d'une fusion, c'est important à le dire, parce que, bien évidemment, moins il y a de sites institutionnels, plus c'est facile de travailler sur les questions de handicap. Ce qu'on peut dire, sinon, par rapport à cette université, c'est que, bien évidemment, et Odile Contat en a parlé, la politique de l'université s'inscrit dans un paysage national qui a été marqué par la loi Fioraso en matière de handicap, d'une part. Ensuite, par les effets de la massification, dont le bilan est contrasté, on va dire. D'un côté, on va vers une individualisation des parcours. Donc ça va vers cette attention portée aux personnes. Hein, ça, c'est extrêmement important. Mais d'un autre côté, le taux d'encadrement, lui, n'augmente pas. Donc on a ce hiatus qu'il faut quand même souligner. Par ailleurs, il y a eu l'institution de la CEVEC, qui est une contribution spécifique, qui, elle, permet d'alimenter les services universitaires autres que la bibliothèque universitaire, dont, localement, le service de santé universitaire qui a absorbé le service université handicap. Donc le bilan est celui-ci. C'est important aussi de vous parler de cette fusion parce que on est sur des étapes clés de l'évolution d'un site. Donc en fonction de cela, bien évidemment, on est amené à avoir des changements globaux de feuilles de route et des changements de personnes. Donc lorsqu'il s'agit d'échafauder une politique sur le handicap qui est une politique pluriannuelle, il faut bien évidemment tenir compte de ces césures. Il y a des dossiers qui, par exemple, sont prioritaires sur d'autres. Quand il s'agit d'une fusion de deux établissements qui ont été séparés pendant des dizaines d'années, ça a, en quelque sorte, pris le pas sur tout autre dossier. Concrètement, il faut mettre en place un schéma directeur au niveau de l'établissement, comme c'est prévu dans les textes. Donc la chose a été faite au niveau de l'université et je peux vous en donner les 8 axes. Bien évidemment, le premier, c'est logique, concerne les politiques liées aux ressources humaines. Donc quid des ressources humaines sous l'aspect de la situation du handicap. Le deuxième axe, lui, portait sur les dispositifs d'accueil et les processus d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Le troisième, on en a parlé notamment Lors des présentations de mes collègues en territorial, c'est la chose la plus évidente, c'est la question de l'accessibilité des documents. Donc ça interagit avec un autre schéma directeur qui est celui de l'immobilier. Le quatrième qui concerne de manière assez proche, qui concerne la bibliothèque, c'est la question de l'accessibilité aux outils et aux ressources. Donc Odile Conta en a parlé également lors de son propos introductif. En cinquième point, il y avait la question de la cohérence et de la lisibilité des formations dans le domaine du handicap. Le sixième point, lui, portait sur la question de la recherche, parce que c'est aussi un objet de recherche. Le septième point avait pour but de pousser une politique d'achat solidaire. On pourra y revenir. Et le huitième point, lui, concernait spécifiquement la question de la communication. Voilà, en gros, les huit volets de ce schéma directeur. Donc, pour préparer cette réunion, j'ai fait le tour en interne et il se trouve que cette structuration va être conservée pour le projet d'établissement qui va commencer, qui va être déposé par l'établissement. Je parlais tout à l'heure des changements qui pouvaient être induits dans la politique d'un établissement. Bien évidemment, ça tient aussi aux personnes. Quelle est la sensibilité du président ou de la présidente qui dirige les destinées d'un établissement d'enseignement supérieur? Sur qui s'appuie-t-il lorsqu'il s'agit de désigner un vice-président ou une vice-présidente? Et concrètement, comment les questions aussi de l'engagement du correspondant handicap et du référent handicap? Donc ça, Olivier Caudron, on a parlé tout à l'heure. Donc il y a cette fonction un peu de halle. Hein. Donc on a une personne qui s'occupe de la situation de l'accueil des étudiants en particulier, et puis une autre qui va être placée du côté de la direction des ressources humaines. Voilà pour brosser globalement l'état des choses dans un établissement d'enseignement supérieur comme celui de l'Université Clermont-Auvergne. Pour ce qui porte, ce qui a trait à la bibliothèque, la mission transversale du service, elle a été créée au début des années 2010. Et il se trouve que j'ai eu la chance de recruter Françoise sur ce poste, entre autres, parce qu'il y avait, c'était une mission, mais il n'y avait pas que cela sur la fiche de poste. Et clairement, c'était annoncé comme tel. C'est-à-dire que quand c'était à l'ENSIB, il y avait la présentation des postes qui était assurée par les directeurs, j'ai annoncé que c'était une priorité pour nous. Alors, sur la question RH, c'est une question qui est fondamentale. Les collègues de la territoriale ont aussi évoqué la chose. Il y a la question de la formation. Donc, comment faire en sorte que cette question de handicap soit présente dans le plan de formation de l'établissement? Mais je pense que, de toute façon, ça n'a de sens aussi que si on se penche, si on attrape en gros le dossier à bras-le-corps en matière de RH, l'emploi de personnes en situation de handicap soit pris en compte véritablement. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment crucial. Hélène le disait, Hélène Brochard, tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'avoir une politique de guichet, il s'agit d'avoir une politique globale. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a posé au niveau de la bibliothèque universitaire. Et on est allé jusqu'à demander explicitement à briser le plafond de verre qui consistait à l'époque à l'université à dire que les BOE, donc les postes dits adaptés, ne devaient concerner que des postes de catégorie C. Voilà. Donc, moi, j'ai demandé expressément l'ouverture d'un concours B. Voilà. Que j'ai fini par obtenir en disant à l'université qu'il fallait être cohérent d'un bout à l'autre. Et je me suis appuyé, je l'ai remercié, sur la vice-présidente de l'époque qui est allée voir le président en lui disant « Voilà, c'est cohérent, c'est une politique globale, on va jusqu'au bout du processus. » Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, à mon avis, change le regard sur le handicap profondément. Bien évidemment, il y a la question du confort au travail. Tout cela doit être vu, encore une fois, de manière progressive et globale. Le handicap, c'est à la fois le handicap qu'on porte d'emblée avec soi, mais c'est aussi le fait que la majeure partie des personnes en situation de handicap le sont devenues au cours de leur vie. Donc, il faut absolument que ces choses-là soient accompagnées, et elles le sont au sein de l'université. Hein. On a une ergonome du travail, et toutes ces choses-là sont financées à la demande des services. Et donc, l'ergonome se déplace et établit un diagnostic. Et l'autre chose sur laquelle on a fait une action qui pourrait mériter d'être saluée, c'est le fait, avec le CFAS, d'accepter de prendre en charge 3 apprentis en situation de handicap. Bon, ça a été un énorme boulot, notamment de la part des collègues qui se sont consacrés au suivi de ces apprentis en situation de handicap. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a pu y avoir des tensions. Alors, les tensions, elles sont pas propres du tout au handicap. Voilà, faut pas non plus voir les choses que par ce biais-là. Mais il y a pu y avoir des tensions. Et elles ont été aplanies à chaque fois parce qu'il y avait une excellente collaboration entre le CFAS, la personne qui, à la DRH, s'occupait du dossier du handicap, et la bibliothèque. Alors, j'ai retrouvé le chiffre du financement à l'époque, des apprentis. En 2018, le chiffre avancé par la DRH, du coût, hein, c'était environ 18 000 euros. Voilà. Sur la situation des personnes, les BOE, là, à l'UCA, on peut constater qu'à l'Université Clermont-Auvergne, il y avait 81 personnes en 2016 en BOE, et maintenant on est à 139. Donc l'effort a été véritablement accompli. Alors, on parlait tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure la question du schéma directeur immobilier, et mes collègues ont parlé de la nécessité à chaque fois d'évoquer ce sujet constamment. Voilà. Effectivement, il y a plusieurs schémas directeurs qui font en sorte de permettre un suivi des projets au niveau d'un établissement ou d'une collectivité. Donc nous, on a le schéma directeur de l'immobilier et le schéma directeur numérique qui sont véritablement deux piliers de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur. De ce point de vue-là, l'immobilier et l'accessibilité, on avance, mais pas assez vite. Heureusement, on va avoir un CPER normalement qui va nous permettre d'agir en centre-ville. Et nous avons lancé le projet d'un learning center en centre-ville qui va enfin débloquer la situation. Jusqu'alors, outre les quelques travaux qui avaient été obtenus au fil de l'eau, nous étions partis sur la suggestion pertinente de Françoise sur l'idée de l'adaptation. Ça veut dire il faut faire en sorte, par le service, c'est-à-dire par la sensibilisation des personnels, de pallier les éventuels manques en matière d'accessibilité. Voilà. Donc tout ce qu'on ne peut pas déjà obtenir du point de vue du bâtiment en matière d'autonomie, il faut mettre en place un dispositif humain pour faire face. Sur la question du numérique et de l'accessibilité, c'est un dossier qui a été en recul, je le dis. On a parlé tout à l'heure de priorité. La priorité, c'était la fusion. Donc on est passé de 3 sites à un site internet, et la bibliothèque jusqu'alors bénéficiait d'une autonomie certaine, et à l'occasion, si vous voulez, de la fusion, on a dû passer par le système qu'on appelle CASUP, peu importe, de la communication, et ça a été, on a négocié pied à pied, mais ça a été un recul. Voilà, très clairement, par rapport à tout ce qu'on avait pu mettre en place avec Françoise. Et si vous allez sur le site, il est en retrait par rapport à ce qu'on avait pu faire à l'époque, où je me rappelle, quand on avait notre site en propre, on mettait systématiquement les textes en Word, etc. Voilà. Donc on a eu un recul. On va le rattraper. Vous voyez, cette question des à-coups, elle est importante. C'est-à-dire qu'il y a une refonte du site Internet de l'université qui va intervenir en 2022. La bibliothèque, pas seule, mais entre autres, a poussé la question de l'accessibilité. Hein. Et on va enfin avoir des choses meilleures, et notamment une homologation RG2A partielle, hein, qui va nous permettre d'être plus à l'écoute et plus accessible. Donc j'ai parlé tout à l'heure du service Université Handicap, qui avait été en quelque sorte, qui est maintenant désormais partie intégrante du service de santé universitaire. Donc le service Université Handicap, c'est celui qui a l'agrément pour la transcription des œuvres, donc qui est en relation avec le dispositif Platon. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je tiens à dire que il faut que vous preniez conscience des caractéristiques propres à chacune des disciplines. Il est beaucoup plus difficile de transcrire un document scientifique ou un document, par exemple, sur l'architecture, qu'un essai sur l'histoire littéraire de la France. Voilà. Dès l'instant où il y a des schémas, des illustrations, ça prend énormément de temps. Voilà. Ça demande des compétences particulières. Donc, de ce point de vue-là, un étudiant n'égale pas un autre étudiant. Voilà. C'est en fonction de sa discipline, le temps à consacrer à cet étudiant va différer s'il est atteint de déficience visuelle. La question du SUH et l'articulation avec le SUH pose aussi la question très clairement la qualité de l'accueil. Ça, c'est un point important qu'on va se revoir en janvier là-dessus. Ça pose la question évidemment de l'autonomie de l'étudiant lorsqu'il arrive dans un lieu, notamment à la bibliothèque. Voilà. Enfin, le service communication avec la direction des systèmes d'information vient de mettre en place un guichet spécifique pour le handicap pour être plus facilement, en gros, à l'écoute des personnes en situation qui connaissent cette situation. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur la question du regard. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait avoir une vision globale des choses. Hein. Et cette vision globale des choses, c'est notamment d'en parler autrement, ou de mettre en avant les pratiques, ou de rappeler que le handicap peut concerner tout le monde. Voilà. Donc, il y a des actions à mettre en place pour que les choses deviennent tangibles, compréhensibles, pour les valides, en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on a pu faire, notamment avec... la référente handicap lorsqu'elle a lancé un concours BD, notamment en mettant en avant avec l'UFR STAPS les pratiques de sport en situation, enfin de sport et handicap. Et enfin, lorsque nous avions, à l'occasion de 14-18, en bibliothèque de santé, donc c'était avec Françoise à l'époque, conçu une exposition sur la guerre de 14 et sur tout ce qui avait pu se passer dans le milieu médical en matière de prothèses et prise en charge des différents types de handicaps dus à la guerre. Un point enfin sur la question de l'achat solidaire. Une chose est de postuler ce dispositif, une autre chose est de le mettre en place. C'est pas si facile. Notamment parce que dans le cadre des marchés publics, il faut que des organismes spécialisés se manifestent, hein, et acceptent la règle. Donc, ce n'est pas si facile. Hein. Ça suppose d'être très proche du terrain pour savoir faire en sorte que des propositions soient faites. lorsqu'un marché public est publié. Bien. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur la situation de la bibliothèque Clermont-Auvergne et de l'université Clermont-Auvergne. Il est clair, comme les collègues ont pu le dire, que la situation de la Covid a fait suspendu un certain nombre de choses. Ça, c'est incontestable. Nous sommes actuellement sur la finalisation du contrat d'établissement avec l'équipe présidentielle, puisque non seulement il y a eu fusion en 2017, je vous l'ai dit, mais en plus, depuis cette année, on est passé sous un statut particulier qui s'appelle l'EPE, hein, établissement public expérimental, et ça suppose une nouvelle mue en partie de l'établissement. Et donc nous sommes un petit peu en retard, passez-moi l'expression, en contre-coup, pour la rédaction de ce contrat. Ce contrat va être finalisé et nous allons bien évidemment reprendre la question du handicap pour en faire un des axes de l'établissement. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci.
Merci à tous les trois. Donc, je pense qu'il nous reste, si on veut vraiment respecter le timing, 5 minutes. Pour des questions ou des remarques. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez des questions.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question plutôt d'ordre méthodologique à Alban Lejeune. Vous avez juste, par rapport à l'état des lieux qui a été réalisé, vous avez évoqué le questionnaire qui a été envoyé aux professionnels des bibliothèques. Je voulais savoir si, pour réaliser cet état des lieux, vous étiez passé par ce questionnaire et par la voix des bibliothécaires, ou si cet état des lieux avait été aussi construit à partir d'autres apports, d'autres professionnels que ceux des bibliothèques.
Le questionnaire a été établi effectivement par le groupe Accessibilité à l'appui de documents qui existaient, de retours d'expérience aussi qu'on avait eu notamment du réseau de Château-Giron, pour lequel un travail d'état des lieux avait déjà été fait de façon copieuse. Et après, les collègues, effectivement, ça a été à leur charge et avec leurs moyens. Donc sans doute que certains, comme dans la ville de Saint-Brieuc, il y a une référente handicap au niveau municipal et qu'elle a été impliquée. Mais voilà, en tout cas, ça a été fait par les collègues sans intervention de l'agglomération. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Bonjour, Yannick Henriot, magasinier à la BPI. Je voulais savoir, dans la présentation que vous avez faite, on n'a pas parlé de l'articulation avec les centres de formation aux carrières de bibliothèque, et les centres de formation territoriales. Est-ce qu'il y a une articulation? Parce qu'on parle d'organisation pérenne. Est-ce qu'il y a une sensibilisation aussi en amont de tout le personnel, et notamment le personnel de magasinage, qui est souvent en première ligne au contact de ces publics? Donc savoir s'il y a aussi un travail là-dessus qui est engagé.
Oui. Fabrice va pouvoir répondre.
Oui, je ne sais pas si ça marche. Je peux dire un mot, puisque, comme le disait Audi Conta, les CRFCB relèvent de l'enseignement supérieur. C'est une question qui est une question importante. Et de ce point de vue-là, le médiathème de l'ABF a été, un élément important pour sensibiliser les collègues sur ces questions de handicap. Je tiens à le dire. Les CRFCB, me semble-t-il, se sont assez largement appuyés sur cet instrument-là pour organiser des formations.
Juste pour rappel, donc la troisième table ronde de la journée parlera spécifiquement du thème de la formation. Ça sera donc la table ronde animée par Hélène Cudzia, et notamment il y aura Madame Gonzalez de Bretagne pour les CRFCB.
Si j'ai le temps de relayer une question arrivée en ligne, quel rôle pourrait jouer l'État dans la structuration et l'accompagnement des bibliothèques dans leur démarche d'accessibilité universelle?
Si Jérôme est toujours là, Jérôme.
L'État intervient globalement dans avec deux leviers majeurs. Un premier levier qui est la fixation de la norme, donc la production de lois, on en a cité plusieurs, de règles. J'indique entre parenthèses que la future loi sur les bibliothèques qui devrait être adoptée par le Sénat le 16 décembre prochain, les parlementaires ont tenu à faire un cas particulier aux personnes en situation de handicap. Donc il y a ce premier élément. Donc les textes, les lois, les décrets, et ça descend jusqu'à des dispositifs de règlement d'aide. Il a été cité plusieurs fois le cas des DRAC et des soutiens apportés par les DRAC aux bibliothèques territoriales dans le cadre de la dotation générale de décentralisation, avec par exemple des majorations d'aide pour des projets qui tiennent compte de l'accessibilité. Donc ça, c'est déjà le premier cadre. Et en venant sur le règlement des aides, je débouche sur le deuxième levier d'action, qui est l'argument financier, c'est-à-dire les subventions, c'est-à-dire que l'État fixe des règles et par ailleurs donne les moyens supplémentaires aux bibliothèques pour converger vers ses objectifs. Donc voilà les deux modalités d'action de l'État. Je crois que à la fois le dispositif normatif et le système d'aide existent. Après, concrètement, il faut le mettre en œuvre. On a une réflexion en cours, par exemple, sur les SIGB. Il est clair que dans le cadre de la dotation générale de décentralisation, on va aider particulièrement, voire ne pas aider, les systèmes qui ne seraient pas accessibles. Donc, en conjuguant les deux, on a des dispositifs. Voilà ce que je peux répondre.
Il y avait une question, Catherine, qui voulait...
Bonjour. J'avais une question pour Alban Lejeune concernant le groupe référent accessibilité qui a été mis en place sur le territoire. Je voulais savoir si c'était un groupe qui était uniquement composé de personnes bibliothécaires en interne ou est-ce que vous avez pris d'autres personnes du territoire qui auraient pu apporter des choses.
Alors il faut savoir que dans notre réseau, en fait, il y a un enjeu de coordination. Enfin, on est sur une structure matricielle faible, ce qui fait qu'en fait, il y a déjà l'enjeu de coordonner, fédérer les équipes. Donc c'est vrai qu'on s'est concentré. Alors encore une fois, je suis distinguée dans notre travail ce qui est de la logique de coordination et ce qui est de la logique municipale. Donc j'ai pas prétention à parler pour les collègues des bibliothèques qui travaillent eux aussi, comme je vous disais, avec des partenaires locaux et donc qui ont pu mener ce travail avec eux. Mais sur les groupes accessibilité, pour l'instant, effectivement, on est plus sur des bibliothécaires qui fédèrent et font le lien au niveau de leur commune et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent avoir aussi un lien avec le bassin de vie, le petit territoire dans l'agglomération. Mais pour l'instant, ce ne sont effectivement que des professionnels. Cependant, depuis cette année, comme on développe vraiment le volet médiation, relation assez forte, transversalement avec les partenaires, on essaie de faire en sorte que chacune de nos réunions se déroule dans une structure potentiellement déjà partenaire ou potentiellement partenaire, ou d'accueillir quelqu'un. Là, on va accueillir, par exemple, mardi prochain, une référente qui travaille sur une association qui fait le lien entre le sport et la question des handicaps, mais aussi la culture. Voilà.
On va prendre une toute dernière question.
Bonjour, Catherine Boin de la Bulac. En fait, j'en avais deux petites. S'il y en a une qui peut se régler en individuel, on l'évacue. C'est comment trouver un expert AccessiWeb, déjà. Et la deuxième question, qui était plutôt pour Clermont-Ferrand, pourquoi c'est plus facile ou plus difficile qu'il y ait plusieurs sites ou pas pour pouvoir intégrer la notion de handicap.
Alors pour AccessiWeb, c'est un label, c'est l'association BrailleNet, si je ne me trompe pas, qui s'en occupe. Il y a d'autres associations aujourd'hui et d'autres entreprises qui peuvent effectivement faire des audits d'accessibilité. AccessiWeb, c'est un label. Mais il y a d'autres entreprises, effectivement, qui aujourd'hui peuvent se charger de faire un audit d'accessibilité. On est sur de l'accessibilité numérique, donc on rentre quand même dans des choses assez techniques. Et l'accessibilité numérique, effectivement, voilà, c'est du code, c'est de la vérification. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'accessibilité des sites. Juste pour préciser, il y a une obligation, effectivement, de déclaration d'accessibilité. De non-accessibilité, on en est là aujourd'hui. Mais c'est effectivement aujourd'hui important, lors qu'il y a création de site internet, de s'engager dès le départ. Tout ce qui est dès le départ, ça coûte beaucoup moins d'argent que quand il faut reprendre les choses. Voilà.
Je vais peut-être compléter la réponse, puisque c'est une difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés, puisqu'on a démarré la démarche, évidemment, avec l'objectif de, d'un site labellisé alors AccessiWeb. Et puis, en essayant de se repérer dans cette jungle-là, donc d'une part, je confirme, en tout cas, si vous rencontrez des difficultés, nous les avons partagées. Il est effectivement, alors notamment très difficile de prendre contact avec Brainet. Nous, on a pu avoir un devis, on n'a jamais pu avoir de prestations. Pourtant, on a relancé sur la question. Donc, j'ai peut-être rencontré, vous, la même difficulté. La question de la certification, c'est encore effectivement une forme de jungle technique dans laquelle on a des difficultés à se repérer. Pour répondre à l'obligation de déclaration d'accessibilité, c'est votre fournisseur qui, dans un premier lieu... Donc, le système est un peu biaisé, puisque la déclaration, vous êtes tout d'abord fournie par... Le prestataire de votre site internet. Donc ça, c'est pour le coup une étape assez facile à réaliser en se tournant vers lui. Mais le conseil que je pourrais donner est vraiment de viser une accessibilité au-delà des labels, de viser une accessibilité réelle et de terrain en cherchant à réaliser, en faisant réaliser des relectures, vous appuyant sur des associations, des personnes en situation de handicap. On a de notre côté fait relire le portail, notre portail. Des modifications ont été apportées. Donc appuyez-vous sur des personnes en situation de handicap. Faites relire votre portail, faites-le vocaliser. On a quelquefois de très mauvaises surprises à la vocalisation. Et je dirais que c'est sans doute, en tant que professionnel, l'option qu'on doit privilégier avant même les labels qui sont effectivement très difficiles à obtenir.
Ouais, je suis vraiment désolée, on va devoir s'arrêter là. Peut-être que vous pourrez répondre à la question en off. On vous offre 5 minutes de pause. On reprend avec M. Caudron. Quand je dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes.